5, verset 17 jusqu'à 30. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit. Répondit, c'est-à-dire aux Juifs qui l'accusaient parce qu'il avait guéri un homme le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il l'appelait Dieu, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Ce passage est une suite de grosses difficultés. Quand on le lit, évidemment, peut-être, on peut se trouver satisfait, mais ça ne peut être qu'une satisfaction recueillie superficiellement, parce que vraiment, dès qu'on veut méditer ce passage, on se rend compte des difficultés qu'il contient. C'est naturellement toujours, et je le répéterai sans cesse, un langage concis, mais la concision quelquefois, n'est-ce pas, pour énoncer des choses aussi grandes, parvient à vraiment rendre obscur, presque obscur, le texte. Ou tout au moins faut-il beaucoup d'attention, beaucoup de recherche même, pour arriver à pénétrer un tel texte. Et si je vous dis cela, c'est parce que je voudrais que vous compreniez que l'écriture est une chose qui appelle l'étude, qui appelle l'attention. On peut, je vous dis, à très bon compte, se sentir satisfait, mais on ne recueille pas le fond de ces choses. Et vous allez voir. Il y a dans le verset 17, mon Père agit et jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il y a là déjà une réponse aux Juifs, n'est-ce pas, au sujet de leur position quant à la guérison que Jésus venait de faire d'un malade, d'un impotent, le jour du sabbat, à la piscine de Bethesda. Pourquoi Jésus, qui pourtant est soumis à la loi de Moïse et ne fera jamais rien qui soit contraire aux ordonnances de la loi de Moïse, ben, pourquoi Jésus a-t-il guéri cet homme et lui a même enjoint d'emporter son lit, n'est-ce pas, s'il avait dit « lève-toi, marche ». Bon, on pouvait marcher un chemin de sabbat le jour du sabbat. Marcher n'était pas donc absolument une chose réprouvée, mais il lui dit « emporte ton lit », et c'est, n'est-ce pas, ce qui va surtout susciter la colère des Juifs. « Emporte ton lit », c'était un travail d'emporter son lit, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que les Juifs avaient dressé tout un catalogue de choses qu'on ne pouvait pas faire le jour du sabbat, en quelque sorte, n'est-ce pas, complétant la loi de Moïse, poussant la loi de Moïse, comme d'ailleurs on l'a fait dans le christianisme romain, n'est-ce pas, dans le catholicisme. On a fait un catalogue des péchés, de toutes sortes de choses, on a fait des codes sur l'évangile, n'est-ce pas. Eh bien, les Juifs avaient déjà fait cela, ils avaient fait sur la loi de Moïse un véritable code. Et c'est à ce code que Jésus n'obéira pas, tout en obéissant à la loi de Moïse dans son esprit. La guérison que Jésus vient de faire est une manifestation de la volonté d'action du Père. Voilà ce que veut dire le Seigneur. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit. C'est donc une manifestation de la volonté d'action du Père qui a déterminé celle du Fils. Mon Père agit, il a une volonté d'action. Alors qu'allez-vous dire à cela? Eh bien, moi aussi j'agis, si le Père agit, moi aussi j'agis, je ne peux pas rester, moi, à l'arrêt, quand le Père agit. Voilà le fond de la réponse de Jésus. Si Jésus agit même un jour de sabbat, eh bien, c'est que l'œuvre de salut voulu par le Père, est en marche et ne s'arrête pas, même le jour du sabbat. Cette œuvre ne s'arrête pas. Si le Père qui agit ne suspend pas son œuvre le jour du sabbat, comment le Fils la suspendrait-il lui-même? Il prendrait là une initiative personnelle. Et n'est-ce pas à l'exemple du Père que Jésus agit? Et là, nous allons voir se développer la chose dans les versets suivants, n'est-ce pas? C'est à l'exemple du Père, à l'exemple, je dis bien, n'est-ce pas? Parce que Jésus va nous dire, tout ce que le Fils voit faire au Père, il le fait pareillement. Alors, c'est à l'exemple du Père que Jésus agit. La guérison du malade impotent de la piscine de Bethesda n'était d'ailleurs pas littéralement une transgression du sabbat, ni même le retour du malade dans sa maison en portant son lit. Ça, ce n'était pas une transgression. C'était une transgression, selon les Juifs, n'est-ce pas, d'après leur code personnel propre, n'est-ce pas, mais ce n'était pas une transgression de l'ordonnance de Moïse. De plus, on pourrait dire que le sabbat, mais se trouve grandi, et ça ils ne le comprennent pas, il se trouve grandi d'une action, d'une intervention de Dieu faite par le Fils. Il se trouve grandi parce que le jour du sabbat, c'est pas si un homme n'a pas le droit de travailler, mais Dieu qui travaille pour exercer sa miséricorde, comment trouverait-on cela mauvais un jour de sabbat? La chose apparaîtra surtout dans l'évangile de Luc, pas ce que je vous dis là, pas comment la chose, n'est pas, serait-elle vue comme mauvaise, alors qu'il s'agit, quand Dieu fait des œuvres, il s'agit d'œuvres de miséricorde. Alors le jour où l'on rend un honneur à Dieu, Dieu intervient ce jour-là pour manifester sa miséricorde, et on trouverait à redire à cela. En accusant Jésus, en somme, les Juifs accusaient donc Dieu. Ben, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alors si vous m'accusez d'agir, eh bien vous accusez mon père, vous accusez Dieu. Mais la réponse que Jésus fait dans le verset 17 ne calme pas ces Juifs, au contraire, elle attise le feu de leur haine, car ces gens-là prennent prétexte de tout. Vous savez, l'esprit, lorsqu'il est l'esprit de l'homme, lorsqu'il est mal intentionné, découvre des prétextes à sa mauvaise intention dans la vérité elle-même. Il va puiser dans la vérité, dans l'énoncé de la vérité, les raisons même de son attitude hostile. Jésus appelait Dieu « mon Père ». Il ne l'appelait pas « notre Père », mais il l'appelait « mon Père ». Et cela mettait le comble à l'irritation des Juifs, n'est-ce pas? Alors, en outre, Jésus liait son action à celle de Dieu, ce qui établissait une collaboration étroite, collaboration d'ailleurs sur laquelle Jésus va revenir, une collaboration certes très étroite, mais cette collaboration, il ne pouvait pas la concevoir, parce qu'il disait, mais alors, s'il travaille avec Dieu, s'il travaille comme Dieu, alors il se fait l'égal de Dieu. Il se met au niveau de Dieu. Hein? Il fait des œuvres comme Dieu, il travaille comme Dieu, il fait la même chose que Dieu, alors il est Dieu, il se met au niveau de Dieu. En somme, il sentait une vérité, parce que c'était bien la vérité qu'il ressentait, vous voyez, même à travers leurs mauvais sentiments, ils étaient perméables à une vérité, cette vérité les rendait méchants. Au verset 19 et 20, Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Les Juifs avaient formulé le reproche à Jésus d'intervenir le jour du sabbat. Jésus répond à nouveau parce que le verset 18 est un résumé de quelque chose que les Juifs ont dit en plus et qui ne nous est pas rapporté dans l'entretien, n'est-ce pas simplement un résumé. Donc Jésus va répondre à nouveau et de façon plus précise, il va affirmer l'étroite dépendance de l'œuvre qu'il fait, qu'il est venu faire, à celle du Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire lui-même. Voilà déjà, n'est-ce pas, quelque chose de posé. Il ne peut pas faire quelque chose de lui-même. C'est-à-dire, si Jésus s'en rapportait à sa propre nature, n'oublions pas qu'il a une nature humaine, n'est-ce pas, liée à celle, à la nature divine, mais s'il s'en rapporte à sa propre nature, même en considérant les deux natures liées, n'est-ce pas, dans la personne de Jésus, la nature divine et la nature humaine, ben lui-même fait cela, c'est l'ensemble de ces deux natures, eh bien, même cet ensemble des deux natures, lui, le Fils de Dieu, ne peut rien faire de lui-même. C'est une impossibilité. C'est une chose à écarter, c'est une chose qui n'a pas même sa raison d'être. C'est une absurdité, on peut dire. C'est une absurdité que d'envisager que le Fils puisse faire quelque chose de lui-même. Une impossibilité, une absurdité. S'il agissait de lui-même, selon sa propre nature, en consultant sa propre volonté, n'est-ce pas, et en faisant agir sa propre volonté, indépendamment de Dieu, eh bien, il n'aurait ni les directions qui sont nécessaires, les directions de l'œuvre à faire, il n'aurait pas davantage la puissance de les faire, la puissance utile, et la volonté même, sa volonté, aboutirait à quelque chose de mauvais. Jésus Donc, pourrait, si vous voulez, dans un sens, agir de lui-même. Il pourrait, ce n'est pas qu'il en ait l'incapacité absolue, parce qu'alors, n'est-ce pas, il serait simplement un automate. Et il n'est pas un automate. N'est-ce pas ? Donc, il pourrait agir de lui-même, mais son œuvre ne serait pas celle qu'on voit là, elle ne serait pas celle-là. Cette œuvre ne pourrait pas être celle-là. Jamais, d'ailleurs, Jésus n'utilisera sa personne et son activité en dehors d'une entière dépendance du Père. Agir autrement, agir en dehors de la dépendance pleine et entière du Père, dont il nous parle ici dans des termes très précis, très nets et absolus, eh bien, s'il agissait en dehors de la dépendance du Père, savez-vous ce qu'il ferait ? Il reproduirait, lui, l'œuvre de Satan. Parce que ce soit Satan qui lui dise, tiens, tu vois, l'Écriture dit cela. Eh bien, fais-le. Fais ce que l'Écriture dit. Que ce soit Satan qui lui dit, ou que ce soit sa propre volonté à lui, dissociée de celle du Père, n'est-ce pas ? Sa volonté personnelle de lui-même. Ben, Jésus parle, vous voyez, il emploie ce terme, de lui-même. Ben, supposez que ce soit la volonté de lui-même, c'est-à-dire sa propre volonté, sans consultation du Père, sans lien avec le Père, n'est-ce pas ? Eh bien, il ferait l'œuvre de Satan. Jésus ferait l'œuvre de Satan. Dans le désert, n'est-ce pas, Satan s'était efforcé de pousser Jésus, précisément, à agir selon l'Écriture. Il ne manque pas autre chose. Ben, l'Écriture dit, il est écrit, ben, il est écrit quelque chose, selon l'Écriture, mais en dehors de la volonté du Père. Voilà, n'est-ce pas, il le pousse à cela. Fais cela, ben, tu es le Fils de Dieu, ben, alors jette-toi. Mais ce n'est pas la volonté du Père qui se jette là pour faire une démonstration, n'est-ce pas, voyez-vous, c'est en dehors de la volonté du Père. Mais, donc, c'est ce que Satan voulait faire à Jésus. Et c'est que ce que Jésus lui-même se refuse et déclare comme étant chose absolument impossible. Alors, mes amis, quand on est devant une pareille chose, moi, souvent, j'ai considéré cela. Ces déclarations du Seigneur montrant sa totale dépendance avec le Père, je me suis rappelé aussi que dans Jean 15, verset 5, le Seigneur avait dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, moi je ne peux rien faire de moi-même, je ne peux rien faire moi-même. Et il nous a dit à vous, vous, sans moi, hors de moi, hors de moi. Le texte serait mieux traduit par hors de moi. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ben, c'est normal. Jésus, hors du Père, n'a rien pu faire de lui-même. Et nous voudrions faire quelque chose de nous-mêmes. Alors, chers amis, chaque fois que dans l'Église ou dans notre vie privée, nous voulons faire des choses de nous-mêmes sans être certains d'accomplir la volonté de Dieu et sans surtout être en relation directe et constante avec le Seigneur, eh bien, chers amis, nous faisons l'œuvre de Satan. Et dans l'Église, nous faisons l'œuvre de Satan. Et c'est ainsi que les églises ont dévié, parce qu'elles se sont mises à faire leur œuvre propre, à agir d'elles-mêmes, et elles sont tombées exactement dans les voies de Satan. Elles sont tombées dans les voies de Satan. Et c'est ainsi que nous avons une église catholique romaine. Et c'est ainsi que nous avons un protestantisme révolté, abominable, et qui profère les blasphèmes les plus grands, le protestantisme, la théologie, les blasphèmes les plus horribles sont proférés au sein du protestantisme. Et quant à l'Église romaine, vous savez ce qu'elle a fait au cours des siècles. Ils ont fait l'œuvre de Satan parce qu'ils ont agi d'eux-mêmes. Et nous avons beau nous appeler Église évangélique et nous dire chrétiens évangéliques, si nous ne marchons pas, si nous n'agissons pas dans la pleine dépendance de la volonté de Jésus, car pour nous, ce n'est pas directement le Père, mais c'est Jésus, Si nous, nous n'agissons pas dans la pleine volonté de Jésus glorifié, et qui a relativement à nous la position là-haut qu'avait le Père relativement à lui, eh bien, si nous n'agissons pas dans la pleine dépendance, mes amis, nous faisons l'œuvre de Satan. C'est pas difficile. C'est clair, c'est net. L'œuvre de Satan. Tout ce qui est entrepris en dehors d'une pleine dépendance avec Dieu, c'est l'œuvre de Satan, même sous couvert évangélique. N'essayons pas, n'est-ce pas, de voir un moindre mal ou un moindre bien. Non. Ou tout est lumière ou c'est ténèbres. Il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Ça n'existe pas. C'est écrit. Ça n'a pas de mélange. Ou c'est ténèbres ou c'est lumière. Et c'est lumière lorsque nous agissons dans la dépendance de Dieu. Il y a là une leçon forte, puissante, mes amis, et qui ne pourrait la voir et la recevoir, cette leçon. Cessons d'agir, de prendre des initiatives que Dieu n'a jamais demandé. Avons-nous vu faire à Jésus des choses? Lui, il nous dit ici, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et nous, est-ce que nous avons vu faire un tas de simagrées que nous faisons? Nous les avons vu faire à Jésus? Dites-moi. Nous avons vu faire ces choses à Jésus. Nous avons vu Jésus jouer de la musique et qui est presque une danse. Et puis, accepter, n'est-ce pas, une musique qui soit des rythmes qui actionnent le psychique. Vous avez vu faire ça à Jésus? Alors, si vous ne l'avez pas vu faire à Jésus, c'est vous qui le faites. Et si c'est nous qui le faisons, c'est Satan, c'est l'œuvre de Satan, tout ça. Il n'y a pas, chers amis, deux manières de considérer la chose. Nous devrions aujourd'hui dans l'Église nous ressaisir bien vite, car nous sommes en voie de faire l'œuvre de Satan. Nous sommes partis de ce côté-là. Et nous avons beau nous appeler évangéliques. Ça ne suffit pas, ça, de s'appeler évangélique. Pour être vraiment évangélique, il faut être lié avec Jésus et n'agir que dans la dépendance. Cela a été enseigné, je l'ai entendu prêcher, certes, mais ce qu'il faut, c'est le faire. Avant l'incarnation, la parole que nous avons vue à l'œuvre, n'est-ce pas, et que nous avons vue même, on peut dire, enseignée et définie dans le commencement de cet évangile, avant l'incarnation, la parole accomplissait en tout la volonté du Père. Et dans la situation nouvelle, qui est la sienne, la parole faite chair, qui s'appelle maintenant Jésus le Christ, eh bien, cette parole faite chair continue dans la même relation avec le Père, dans la même relation qu'il y avait entre la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, n'est-ce pas, cette parole qui a créé le monde, etc., n'est-ce pas, eh bien, cette parole qui a renoncé, qui a fait les œuvres du Père, n'est-ce pas, qui procédait de la volonté du Père, cette parole était dans un lien d'assujettissement total avec le Père. Et ça n'a pas changé depuis l'incarnation. L'incarnation n'a rien changé à cela. Voilà ce que Jésus, n'est-ce pas, explique ici, déclare ici. Le Fils voit le Père. Et il s'agit là d'une vue de l'esprit, bien entendu. Nous avons déjà observé, dans l'évangile de Jean particulièrement, que dans la traduction française, le verbe « voir » s'appliquait à une vue de l'esprit, non pas une vue physique, mais à une vue de l'esprit. Quelquefois à une vue physique, mais assez souvent à une vue de l'esprit. Jésus a donc toujours, il voit, regardez bien, n'est-ce pas, le texte, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne dit pas ce qu'il a vu faire. Ce qu'il voit faire, il emploie un présent. Il ne fait, il ne fait pas autre chose, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire, Jésus donc a toujours cette vue de l'esprit portée sur le Père, pouvant ainsi suivre exactement la volonté du Père et adapter l'œuvre d'en bas à l'œuvre d'en haut. Pleine correspondance de l'œuvre d'en bas avec l'œuvre d'en haut. Ce n'est pas le cas de nos musiquettes et d'un tas de choses, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, souvent, de l'esprit qui règne au milieu de certaines réunions, et notamment de certaines réunions de jeunesse. Ce n'est pas le cas. Oh, certainement, ça ne se passe pas comme ça là-haut. Ça se passe comme ça ici en bas, mais pas là-haut. Oh, ça devrait, dans l'Église véritable, tout devrait se passer en bas comme ça se passe en haut. L'œuvre d'en bas devrait correspondre à l'œuvre d'en haut. Nous sommes, dira l'apôtre Paul, ouvriers avec Dieu. Et ça, c'est pour tout le monde. Ouvriers avec Dieu. Le Père va dévoiler donc au Fils le déroulement de l'œuvre au fur et à mesure qu'il faut qu'elle avance. Il va lui dévoiler le déroulement de l'œuvre sans rien lui cacher du tout. Le Père ne va rien cacher. Et, en effet, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes. Ainsi donc, le Père dévoile au Fils le déroulement de l'œuvre sans rien lui cacher. Et cela, le fait que le Père montre absolument toute l'œuvre sans en soustraire le moindre parcelle, eh bien cela est à mettre au compte de l'amour du Père pour le Fils. Ah, c'est à mettre au compte de l'amour du Père. Le Père, et voyez bien, n'est-ce pas, le verset 20 commence par « car ». Le Père aime le Fils, c'est une explication. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. C'est à cause de l'amour, donc, que le Père va dévoiler toute l'œuvre au Fils. Qui dit aimer, ou qui dit amour, ben, dit confiance, sans limite. Par contre, et à un autre endroit dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus dira, maintenant, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que je vais vous appeler autrement. Je vous appelle des amis. Et pourquoi? C'est « je vous montre tout ». On ne cache rien à un ami, à celui qu'on aime. Un ami dans le sens fort, n'est-ce pas? À celui qu'on aime. On ne lui cache rien. On montre tout. Et c'est ce que je fais maintenant. Je vous dévoile tout. Alors, vous n'êtes plus mes serviteurs. À qui? Les serviteurs, n'est-ce pas? On leur dit « eh bien, faites-moi ceci et cela ». Mais on réserve pour soi tout le reste, n'est-ce pas, des plans que l'on a. On ne dévoile pas tous ces plans à ses serviteurs. On ne dit pas toutes ses intentions à des serviteurs. Pas. On leur donne simplement des ordres qui correspondent à ses intentions, une partie de ses intentions, mais c'est tout. Eh bien là, non. Toutes les intentions sont dévoilées. Tout le plan de l'œuvre est ouvert, n'est-ce pas, parce que le Père aime le Fils, et c'est ce que Jésus dira à ses disciples. Maintenant, je vous appelle des amis parce que je vous donne la possibilité de voir tout, absolument tout, ce que je fais. Alors, si nous avons compris, chers amis, cette coopération, on parle beaucoup actuellement de coopération, mais ça, c'en est une grande coopération entre le Père et le Fils. Si nous avons compris cela, nous allons dire, oh ben ça, c'était normal, n'est-ce pas, c'était le Fils de Dieu, qu'il soit dans ce rapport avec le Père, bien sûr, on comprend la chose, mais ce serait passer à côté de l'intention de Dieu par l'Écriture qui est de nous enseigner. Parce qu'il est dit dans Éphésiens 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Les imitateurs de Dieu. Et il ne dit pas Christ parce que Christ, il le nomme dans le verset d'après. Les imitateurs de Dieu. Si Dieu a agi comme cela avec son Fils, et si le Fils est resté dans cette totale dépendance du Père, alors, vous, Eh bien, imitez ce qu'a fait Dieu. C'est ça l'Église. Nous sommes là dans les Éphésiens. Une lettre qui est en plein, n'est-ce pas, dans la mission et dans l'être de l'Église. Eh bien, chers amis, devenez les imitateurs de Dieu. Et nous devenons les imitateurs quelquefois d'un autre. Des œuvres plus grandes encore suivront à cause de cette collaboration parfaite et confiante. Alors, le Seigneur dit, afin que vous soyez dans l'étonnement, vous qui êtes ici actuellement, vous avez vu un homme guéri. Et c'est déjà un sujet d'étonnement, mais ça ne vous contente pas beaucoup, au contraire, n'est-ce pas ? Ça vous rend hostile. Mais des œuvres bien plus grandes seront accomplies. Nous n'en sommes qu'au commencement. L'œuvre que j'apporte sur la terre va croissant, se développant, grandissant. Dieu a toujours commencé par des petits commencements. Toujours, n'est-ce pas ? Alors le Seigneur suit le rythme du Père. C'est le Père qui fixe le rythme. Le Père déroule les plans, les dessins, et Jésus, sur la terre, accomplit fidèlement. Mais vous verrez, je le sais, je le vois, dans les plans du Père, il y a des développements immenses, des œuvres plus grandes encore vont venir après cela. Alors, ce sera bien autre chose que cela, et vous aurez des sujets d'étonnement autrement grands que celui-ci. Des œuvres plus grandes, qu'est-ce à dire ? Eh bien, ce sera bientôt la résurrection même de Jésus. Et ce sera son ascension. Si vous voyez le Fils monter où il était auparavant, que diriez-vous ? Ce sera l'ascension de Jésus. Ce sera la résurrection d'entre les morts. Ce sera le retour du Fils venant sur les nuées du ciel. Et puis, ce n'est pas tout. Ce sera dans l'ensemble des œuvres de Dieu. Ce sera toute l'humanité qui un jour, comme nous allons le voir, sera appelée à se lever. Et ce sera alors l'introduction de cette humanité nouvelle dans l'éternité. Des œuvres bien plus grandes. Et puis, il y avait aussi dans la pensée de Jésus une part pour Israël, le peuple d'Israël. Vous êtes aujourd'hui dans un étonnement marqué d'hostilité. Mais dans l'ensemble de ces œuvres, pauvre que vous êtes, pauvre aveugle que vous êtes, vous ne voyez pas que la conversion d'Israël prendra place. Dans les œuvres que je commence à faire maintenant, nous en arriverons à la conversion de tout Israël, comme le dit l'apôtre Paul dans les Romains. La conversion de tout Israël. Et un jour, Israël pleurera sur celui qu'il auront percé. Au verset 21, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ressusciter les morts, c'est une chose, c'est-à-dire redonner la vie à ceux qui ne l'ont plus, et donner la vie, c'est la donner du tout au tout, n'est-ce pas ? Donne la vie, la donner du tout au tout. Eh bien, les deux choses sont au pouvoir de celui qui a dit « J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Nous remarquons ceci, là, à partir de ce verset-là. C'est que les objections des Juifs et leur hostilité vont faire dire à Jésus, vont faire prononcer par Jésus des révélations d'un ordre extraordinaire. Si ces Juifs, en somme, n'avaient rien dit, Jésus, là, n'aurait pas eu occasion de dire toutes ces choses. Il les aurait dites peut-être ailleurs. Mais remarquez que c'est en face, souvent, de l'hostilité que Jésus va placer les déclarations les plus sublimes touchant l'œuvre du salut. Dieu fait mourir et fait vivre, nous dit l'Écriture. Premier livre de Samuel, Dieu est celui qui fait mourir et qui fait vivre. Eh bien, il donne la vie, Et le Seigneur Jésus, de même, peut donner la vie. Il peut donner la vie à qui il veut, dit-il ici, c'est-à-dire, non pas, évidemment, selon un certain préjugé, ou, si vous voulez, la donner par fantaisie, mais selon le juste choix qui a pour base la foi à laquelle répond toujours la grâce. Les versets 22 et 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. » Étant Fils de l'homme, Jésus se trouve placé au niveau des hommes. Il a éprouvé tout ce qu'éprouvent les hommes. Il a été tenté, nous dit l'Épître aux Hébreux, comme les hommes le sont. Dieu lui a donc remis le jugement dans, pourrait-on dire, un souci de parfaite équité. Le juge est capable de comprendre tout. Bien sûr, il est Dieu, mais non seulement il comprend, mais il a éprouvé, mais il a subi, n'est-ce pas? Voyez par exemple, n'est-ce pas, un juge qui siégerait sur son tribunal, un juge humain, et qui pourrait dire à des gens qu'il condamnerait, « Eh bien moi, je suis allé en prison, eh bien moi, je suis allé au bagne, moi, j'ai subi telle et telle chose, tout ce que peut subir un homme, je l'ai subi, alors je sais ce que je fais. » N'est-ce pas ? Si je vous impose telle chose, je sais ce que je fais. Je me suis trouvé placé dans les mêmes conditions que vous, dans les raisons de l'homme, ça. J'ai eu tout cela, je le connais, non pas seulement en tant que Dieu qui perce tous les mystères, mais je le connais dans la pratique. Je suis venu moi-même en éprouver les effets. Alors c'est pourquoi, donc, celui qui juge est un homme. Ça, c'est une chose magnifique, n'est-ce pas? Il est Dieu, mais il est aussi un homme. Et Dieu le Père veut, a entendu, lui remettre tout jugement. Or, juger, et juger, ce sera ne pas donner la vie. Juger, ce sera cela. Ne pas donner la vie. Jésus reçoit le pouvoir de donner la vie et il reçoit aussi le pouvoir de la refuser. Et le refus de donner la vie, selon une souveraine appréciation, eh bien, ça, c'est le jugement. C'est le jugement, n'est-ce pas? Par conséquent, voyez, le jugement est bien à mettre en présence, en confrontation du don de la vie. Le don de la vie, c'est bien. C'est une chose magnifique, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut la vie éternelle pour les hommes, c'est bien. Et il charge son fils de donner la vie, mais ne pas donner la vie, c'est juger, c'est condamner. L'attitude des Juifs est donc très grave. On en mesure la gravité à ce que dit Jésus ici, parce que en refusant d'honorer, c'est-à-dire d'abord de reconnaître le Fils en ce qu'il est, hein, selon la vérité qui est en lui, en refusant donc d'honorer le Fils, de reconnaître sa mission, sa personne, c'est Dieu qu'il refuse d'honorer. Il refuse d'honorer Dieu lui-même. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et ça, c'est d'abord à leur adresse, à eux, n'est-ce pas? Vous n'honorez pas le Fils, alors ne prétendez pas honorer Dieu. Vous n'honorez ni l'un ni l'autre. De l'œuvre accomplie dans la fidélité, jamais d'un titre, jamais d'une position même conférée, jamais, mais toujours de l'œuvre. Toute la Bible, depuis A jusqu'à Z, c'est cela. L'honneur vient de l'œuvre accomplie selon la volonté de Dieu dans la fidélité. Voilà d'où vient l'honneur. L'honneur vient de cela. Et c'est pourquoi, vous voyez dans Apocalypse 5, le verset 9, il y a là les anciens et les chérubins, les êtres vivants qui chantent ensemble un cantique nouveau. Heure vient, la dignité, l'honneur viennent d'une œuvre accomplie avec fidélité. C'est pourquoi il est dit que ceux qui auront fidèlement enseigné la multitude brilleront comme les étoiles dans le ciel. L'honneur est toujours cela dans la Bible, donc toujours est en rapport avec l'œuvre et jamais avec autre chose. Alors, n'est-ce pas nos pauvres hommes qui ont cru faire une hiérarchie dans l'Église et puis se donner des titres, n'est-ce pas, son excellence, se donner des titres, n'est-ce pas, sa sainteté, oui, qui sont en rapport avec une position attribuée arbitrairement à une personne et non pas avec l'œuvre. Alors, s'ils connaissaient la Bible même, c'est tout, c'est élémentaire ce que je vous dis là. Parce que ça se découvre dans toute la Bible. À quel moment, par exemple, un homme a-t-il grandi? Moïse, David. David, il prend Jébus. C'était la volonté de Dieu. Il la savait, il la connaissait, cette volonté. Il est comme Christ. Il prend, n'est-ce pas? Il sait ce que le Père veut. Alors, il va à l'assaut. Il prend Jébus. C'est le lieu que Dieu avait choisi. À partir de ce moment-là, David devenait plus grand. Il grandissait. Il grandissait. L'honneur vient toujours de l'œuvre. Et si, donc, ces malheureux hommes qui se sont prétendus chrétiens, et surtout, n'est-ce pas, chefs et maîtres dans la chrétienté, s'ils avaient connu leur Bible, jamais ils n'auraient commis l'erreur de créer une hiérarchie artificielle au degré de laquelle s'attachent des honneurs de plus en plus grands. Hein? Jusqu'au pape qui porte une tiare à trois étages. Hein? Ézéchiel dit d'ailleurs que la tiare sera ôtée avant que celui qui doit juger ne vienne. Elle sera ôtée, la tiare. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. Entrer dans la vie par l'action de Jésus implique l'exemption du jugement. Et pour y entrer, bien sûr, puisque tout à l'heure, n'est-ce pas, je vous ai montré que le jugement est en somme l'opposé de l'octroi de la vie. Enfin, s'il y a l'octroi de la vie, il ne peut pas y avoir jugement puisque c'est l'opposé, n'est-ce pas? On ne peut pas être dans la lumière et dans les ténèbres à la fois. Enfin, alors par conséquent, ce qu'énonce ici Jésus, on pourrait presque dire, c'est une grande évidence. Ça découle de ce qui est déjà dit précédemment. Enfin, c'est une grande évidence. Mais il faut l'énoncer, bien sûr, n'est-ce pas? Elle est une chose à considérer. Entrer dans la vie par l'action de Jésus, recevoir la vie de Jésus, c'est donc être exempté du jugement, cela va de soi. Mais pour y entrer dans la vie, il faut écouter la parole de Christ, et croire à celui qui l'a envoyé sur la terre. Écouter la parole de Christ. Quand on s'informe de la valeur, déjà, des mots dans le texte original grec, on est frappé de quelque chose. C'est que ces mots ont bien plus de force qu'ils n'en ont ici dans la langue française. Écouter, c'est recevoir cette parole et s'y abandonner entièrement. Ah, mes amis, nous prêchons un faux salut, savez-vous maintenant. Nous prêchons un salut bon marché, un salut qui n'est pas authentiquement de salut. Quand nous disons, n'est-ce pas, aux gens, tu as cru, tu crois cela, et on sort deux ou trois vérités, notamment celle-ci, n'est-ce pas, celui qui croit est directement passé de la mort à la vie, ne vient point en jugement, n'est-ce pas, il est passé de la mort à la vie. Tu crois ces choses, tu crois que le Seigneur prouve, crois ça, oui. Eh bien, ça y est, tu es sauvé, mon ami. Oh, quel, c'est pas le salut, ça. Allons, allons. Il faut tout autre chose que ça. D'abord, il faut une repentance. Où est-elle, la repentance? Parce que le cœur n'a pas cédé. Il ne peut pas y avoir libération pour une foi véritable qui saisit tout cela, qui saisit la parole de Dieu. Comment voulez-vous que je saisisse la parole de Christ si je ne me suis pas repenti? C'est une parole qui, justement, confond l'homme et dote l'homme confondu, mais pas un autre. L'homme humilié, c'est pour lui, pas pour l'orgueilleux. Si je reste jugé sur mon orgueil, je ne peux pas recevoir la parole, je ne peux pas l'écouter. Je l'écoute, oui, et c'est ma raison peut-être qui va dire cela, c'est mon intelligence qui le dira, mais ce ne sera pas mon cœur, et je ne serai pas sauvé. Hein, mes amis, on a vite fait de faire des gens sauvés maintenant, pas ben, mais je... Il y a une étude, d'ailleurs, qui a été faite, mais que je me propose bien de refaire plus à fond sur, justement, le véritable salut, n'est-ce pas, sur la véritable possession du salut, de voir par là même quelles sont les insuffisances, souvent, de la prédication du salut actuellement. On veut, n'est-ce pas, rendre les choses... accessible à tout le monde, à tout le monde. Mais seulement, dans ce désir de rendre les choses accessibles à tout le monde, on fait quelque chose, on détruit le salut, la nature du salut lui-même, n'est-ce pas? L'accès au salut est fictif, il n'est pas réel. Ainsi donc, écouter, c'est recevoir cette parole et s'y abandonner pleinement. Attendu, que cette parole est celle de l'envoyé de Dieu. Vous savez, nous avons déjà souligné combien Jésus s'appuyait sur cette, je ne dis pas cette qualité, si vous voulez, mais ce fait qu'il était l'envoyé de Dieu. Passer de la mort à la vie, cela, c'est, vous savez, nos petits escaliers, n'est-ce pas, vous vous rappelez ça, eh bien, c'est passer le seuil, c'est ça. Alors vous comprenez que ce n'est pas une petite adhésion mentale, cérébrale à la parole. Tu crois cela? Tu crois? Oui, tu crois que Jésus... Oh oui, je crois bien. Oh, mais oui, oui, moi je ne dis pas le contraire. Oui, c'est ça, oui, oui. Mais j'ai une famille, une fois, nous étions, ma femme et moi, devant, dans une salle et on baptisait. Et nous avons entendu le témoignage d'une femme. Elle est venue, c'est tout juste, si elle n'était pas, elle ne cherchait pas à manifester la gaieté dans son témoignage. Alors elle disait, non ben moi c'est pas, j'ai entendu dire ça, ben, que on était passé de la mort à la vie. Ça me plaît, moi, ces choses-là, vous savez. Ah oh, ben oui, j'aime bien ces choses-là, moi. Oui, oui, bon, ça m'a plu, ça. Ça m'a bien plu, ça. Oui, alors d'accord, tu es d'accord, entièrement d'accord. Hein, un ton guigré comme ça, on l'a baptisé. Les bras m'en sont tombés, j'en frémissais. Cette femme n'a rien, Jésus n'avait rien compris, mes amis. On a fait d'elle une fausse chrétienne, et après on lui dira, tu es sauvé, tu seras enlevé. Voilà ce qu'on va lui dire après. Oh, que c'est quelque chose. Mais on aurait pu la sauver, cette femme-là. Mais elle ne la baptisait pas avant qu'elle le soit. Attendez que l'Esprit ait fait son œuvre en elle et qu'elle se soit repentie. On n'a pas fait son œuvre. Mais quelle culpabilité aussi pour ceux qui agissent ainsi. Quelle culpabilité, quelle responsabilité devant Dieu. C'est donc le passage de l'homme naturel, de l'état de l'homme naturel, à l'homme nouveau, qui est l'homme spirituel, et qui est l'homme né de nouveau. Et alors, évidemment, il est passé de la mort à la vie, n'est-ce pas?
Vous vous rappelez de notre schéma de l'autre jour. Ça, voilà le niveau de l'homme naturel. Ici, n'est-ce pas? Voilà le niveau de l'homme naturel. Et puis alors, le seuil est franchi. Voilà le seuil, n'est-ce pas? Alors, ici, voilà l'homme qui se lève. Alors, il est passé de la mort à la vie. Ici, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, c'était l'Empire, j'avais présenté ça, l'Empire de la mort. Il était mort, il était vivant dans une certaine accession, et pas il était vivant physiquement, l'homme naturel, mais il était mort par ses offenses, et il était, bien entendu, destiné à être entièrement englobé dans l'Empire de la mort. Eh bien alors, il franchit ce seuil, et là-dedans, il n'y a plus l'Empire de la mort, c'est fini. L'Empire de la mort a disparu. Alors, c'est la vie sans fin, c'est la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, c'est une chose positive, c'est une chose exacte, infiniment exacte. C'est une chose qui procède de la plus haute vérité, de la vérité qui est Dieu, qui est Christ. Verset 25, nous allons entrer dans les difficultés. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà que commencent les difficultés. Notez que jusqu'ici, je ne vous les ai peut-être pas tout à fait signalées, mais nous avons tout de même déjà franchi des difficultés. Mais là, nous en rencontrons avec cela et les versets suivants, une grosse, puisqu'elle donne lieu à toutes sortes de vues, d'interprétations, plus ou moins contradictoires. L'heure vient et elle est déjà venue. Nous avons déjà entendu ça, n'est-ce pas? Et devant la Samaritaine, le Seigneur a déjà dit ça. L'heure vient et elle est déjà venue. C'est-à-dire, elle vient, n'est-ce pas, parce que Jésus est en train d'introduire, il introduit le régime nouveau, la dispensation nouvelle, il introduit, mais elle est déjà introduite, elle est déjà là, puisqu'il commence les œuvres de cette dispensation. Eh bien, il pardonne les péchés, il guérit les malades, il commence l'œuvre. Alors, l'heure vient, elle est déjà venue. Donc, c'est maintenant, avec l'avenue de Jésus, commence l'œuvre du salut. Et lisons bien le texte, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, quels sont ces morts? Là, c'est là que des gens ont discuté. Les gens ont vu, n'est-ce pas, les morts, ceux qui sont morts physiquement et qui sont dans le tombeau. Et puis d'autres ont dit, mais les morts, c'est les hommes, c'est l'homme naturel. Il est mort par ses offenses, c'est lui, n'est-ce pas? Alors, pour trancher la chose, il faut bien entendu faire des comparaisons. Je ne vais pas entrer dans toute la discussion, dans tout l'examen, n'est-ce pas? Je vais vous donner le résultat, mais nous avons déjà tout de même un appui dans Luc chapitre 9 et verset 10. 9, pas verset 10, c'est verset 60. C'est verset 60. Nous lisons ceci. « Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Quand le Seigneur dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts », c'était à l'adresse d'un homme qui lui dit « Permets-moi d'aller ensevelir mon père qui vient de mourir. Hein? » Alors il lui dit « Laisse les morts », autrement dit « Laisse les membres de ta famille et tous tes amis qui sont à considérer comme hommes naturels morts par leurs offenses, hein? Laisse-les enterrer les morts. » Ton père qui est mort, n'est-ce pas? Vous voyez, le Seigneur Jésus applique lui-même ce mot de mort, il l'applique bien aux hommes naturels non dégagés de leur péché, n'est-ce pas? Et non ouverts à la vie nouvelle, n'est-ce pas? Ce sont donc l'homme irrégénéré c'est l'homme irrégénéré qui est appelé mort, comme dans Éphésiens 2, vous étiez mort par vos offenses. Ainsi donc, il est inexact de dire que Jésus n'a pas employé le mot mort dans ce sens-là, c'est absolument faux, vous voyez qu'il l'a fait dans l'évangile de Luc. Alors, donc, les morts ici, n'est-ce pas, ce sont les hommes naturels, c'est-à-dire tous les hommes dans leur péché. Jésus arrive sur la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des morts. Il n'y a que des morts. N'est-ce pas? Et il vient, n'est-ce pas, pour donner la vie à des morts. Ils sont tous morts par leurs offenses, ils le sont tous. Il vient là, n'est-ce pas, il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins en route, en position, des gens comme Siméon, etc., bien entendu, la foi qu'ils ont est si magnifique. Avant de la diriger sur la personne de Jésus, ils la dirigeaient déjà par espérance sur cette personne, ils saluaient déjà de loin le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alors que ces gens-là, Jésus vient et immédiatement, ils reçoivent la vie, c'est sûr, mais d'une manière générale, n'est-ce pas, Jésus vient dans ce temps au milieu de gens qui sont morts. Et alors, les morts, l'heure est déjà venue, c'est donc maintenant que ça commence. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, voyez, là, il y a un triage. C'est pas tous les morts qui vont vivre, c'est une partie des morts. Parce qu'une partie de ces morts, ceux qui auront entendu la parole, autrement dit, maintenant, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est annoncé, et ce sont les violents, ce sont les hardis de la foi, et qui s'en emparent. Ben, alors, ils vont entendre la parole, cela fait suite à ce qu'a dit Jésus, celui qui écoute ma parole. Alors, ceux qui vont entendre, écouter, comme nous l'avons dit, ceux-là vivront. Il s'agit donc des morts par leurs offenses. Appelons-les ainsi, n'est-ce pas, morts par leurs offenses, les hommes naturels, les hommes irrégénérés. Nous continuons le verset 26 et 27. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Jésus possède la vie supérieure, la vie de Dieu, et en plus, il a le pouvoir de la communiquer. Il est donc source de vie. Avec le verset 28, nous arrivons, voyez-vous, nous étions tout à l'heure à la résurrection spirituelle, en somme, ce qui, dans les Romains, est mentionné par l'apôtre Paul, n'est-ce pas, il y a la rédemption en deux phases. Alors, la rédemption, la première rédemption, c'est d'être passé à l'état d'homme spirituel, d'homme régénéré, et d'avoir la vie, n'est-ce pas, c'est la première rédemption, puis la deuxième rédemption, la rédemption du corps, qui est la résurrection. Eh bien, nous passons à cela. Ne vous étonnez pas de cela. Alors le Seigneur dit, je vous annonce maintenant, n'est-ce pas, que ma parole ressuscitera des morts. Des morts, c'est-à-dire des hommes qui sont tous morts par leurs offenses, et je vais leur donner la vie. Ma parole, n'est-ce pas, c'est ma parole qui va leur permettre de saisir la vie que je leur donne. Eh bien, ne vous étonnez pas de cela, parce qu'attendez, l'heure vient, mais attention, là le Seigneur ne dit pas, et elle est déjà venue. L'heure vient, donc ça reste futur, elle n'est pas venue encore. L'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Qui sont dans les sépulcres, alors là, le Seigneur emploie cette expression pour justement faire opposition avec le mot mort. S'il employait les morts, à nouveau, tous ceux qui sont morts entendront, on pourrait ne pas saisir. Mais là, il dit bien, ceux qui sont dans les sépulcres, ce sont donc des gens qui sont morts, alors dans leur corps, cette fois-ci. Voyez-vous, n'est-ce pas ? Ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alors, remarquons ceci, dans ce verset 28, c'est que tout est au futur, n'est-ce pas ? Et c'est donc une chose qui reste prophétique, qui n'est pas actualisé. Elle n'est pas actualisée, il ne dit pas l'heure est déjà venue, c'est maintenant, n'est-ce pas que ça commence? Non, ça ne commence pas maintenant, tout est au futur. Remarquez bien cela. L'heure n'est pas encore là, puisque elle doit venir, elle vient, mais elle n'est pas là. Puis, au terme de mort, Jésus substitue une expression tout à fait nette, tout à fait précise, ceux qui sont dans les sépulcres. Et puis enfin, toujours dans ce verset 8, il dit que ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ce qui veut dire que tous, sans exception, sortiront. Tous, sans exception. Il ne dit pas là, n'est-ce pas, il ne dit pas que ceux qui l'auront entendu se vivront. Non, il dit tous ceux, tous, sans exception, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Qui? Tous, tous, sans exception. C'est tous les morts. C'est la résurrection, donc, à ce moment-là, de tous les morts à laquelle le Seigneur fait allusion. Et alors, le verset 29 nous montre qu'à cette résurrection des morts, vu en gros, n'est-ce pas, le Seigneur ne fait pas de détails, il ne voit pas que l'une précède un peu l'autre, etc., n'est-ce pas, d'un temps, il ne fait pas un décalage de temps, n'est-ce pas, il l'annonce comme Daniel, d'ailleurs, le prophète Daniel l'avait annoncé. Alors, au verset 29, n'est-ce pas, il nous montre deux destinations. Tous les morts vont ressusciter, il faut que les morts, même ceux qui iront au jugement, n'est-ce pas, se reviennent, réobtiennent leur personnalité, esprit, âme et corps, pour être présents au jugement. Il faut qu'ils viennent ainsi. Ce n'est pas à l'état d'esprit qu'ils vont venir, n'est-ce pas, mais il faut qu'ils soient là dans toute leur personne, présents au jugement. Deux destinations, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voici en somme ce que le Seigneur veut ici expliquer. Qu'on ne s'étonne pas, si je donne maintenant la vie, comme je l'ai dit, c'est-à-dire en ressuscitant des hommes qui sont considérés morts par leurs offenses, ils sont vivants sur la terre, mais ils sont considérés comme morts. Alors, qu'on ne s'étonne pas de cela. C'est une œuvre que je fais sur la terre et qui va être faite par toute l'Église, bien entendu, qui fait passer les hommes de foi de la mort à la vie. Hein? Mais attention, le pouvoir de par lequel je fais cela, que j'ai reçu du Père, ira bien plus loin, il va s'exercer d'une façon bien plus étonnante encore, parce que il ira jusqu'à appeler toute l'humanité à se réveiller, mes amis. Toute l'humanité, ma voix, cette voix que vous entendez maintenant, eh bien, elle appellera un jour toute l'humanité à se réveiller. Au jour fixé, je ferai sortir tous les hommes des sépulcres, et ce sera pour le grand accomplissement, ce sera pour la grande échéance. Ou bien la vie heureuse, la vie en présence de Dieu, ou bien le jugement de condamnation. Telle est l'œuvre que je viens faire sur la terre, c'est l'œuvre du bestie. Ils entendront sa voix. Nous avons là quelque chose qui serait de nature à nous faire frémir un peu parce que, n'est-ce pas, chers amis, écoutez bien, la voix, ou si vous voulez, la parole de Christ qui retentit actuellement pour nous réveiller de cet état de mort où nous sommes par nos péchés, cette voix retentira au jour convenable sur toute la terre et son pouvoir sera de faire surgir toute l'humanité du sépulcre. Mais selon ce que vous aurez fait à Louis la première fois, la seconde voix vous destinera d'un côté ou de l'autre, à un côté ou à l'autre, à une destination ou à l'autre, à une destinée ou à l'autre. Attention, il y a deux voix, nous dit le Seigneur. Pour l'instant, j'annonce une voix qui ressuscite les morts. Ceux qui sont morts par leurs offenses, pour les faire passer de la mort à la vie. C'est ça ma voix maintenant. C'est ça ma voix qui va retentir. Mais je retiens, le temps viendra où cette voix, cette même voix que vous entendez maintenant, ce sera la même, ce sera la mienne, ma voix, va sortir l'humanité des sépulcres. Mais là, ce sera pour alors l'accomplissement dernier des desseins de Dieu. Les uns iront à la vie, les autres iront au jugement. Et il nous est dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, le bien, le mal. Alors là, chers amis, oh, en général, on se lance dans un tas de discours, dans un tas de pronostics, dans toutes sortes de choses, chers amis, laissons la parole dans ces lignes simples et droites, je vous en prie. Ne discutons pas. Quand vous discutez comme ça, chers amis, vous mériteriez que Dieu vraiment déchire son ciel et vienne pour vous apporter sa réprobation lui-même. Ça, je ne peux pas souffrir qu'on discute comme ça. Est-ce le fait de chrétien que de discuter, de se livrer à des disputes de mots? Mais recevez la parole, entendez la parole, il s'agit de la vie. Il ne s'agit pas de théorie, il ne s'agit pas de discussion, il s'agit de la vie. Faire le bien, c'est tout simplement accomplir la volonté de Dieu. Et cela s'applique à tout le monde. C'est une formule, si vous voulez, une parole qui s'applique à tout. Il y a, bien sûr, des hommes qui ont vécu avant le Christ. Et est-ce à dire que toute cette partie de l'humanité sera amenée au jugement et condamnée? Mais ce n'est rien, ce serait ne rien comprendre du tout à l'Écriture, alors. Ce serait être vraiment fermé à la miséricorde de Dieu. Autant, n'est-ce pas, il faut, avec la justice de Dieu, être inflexible et ne pas voir l'universalisme, qui est une erreur provenant d'une méconnaissance et d'un mépris de la justice de Dieu. Autant, n'est-ce pas, cette justice est inflexible. Lorsque jugement il y aura, n'est-ce pas, ceux qui sont pour le jugement, à ce moment-là, ne pourront pas obtenir de sursis. Ce sera fait. Ce sera déjà fait. Mais l'humanité qui a précédé Christ, eh bien, cette humanité qui a précédé Christ, vous voudriez que Dieu l'envoie tout entière au séjour des morts, à la mort définitive, à la deuxième mort, la seconde mort? Mais alors, ce serait ne pas connaître du tout vraiment la miséricorde de Christ, ce serait de Dieu, ce serait avoir oublié ceci, c'est qu'il y a une plus ou moins grande sévérité pour telle ou telle fraction de l'humanité. Bethsaïda, Capernaum seront jugées plus sévèrement parce qu'elles ont reçu des choses grandes, sublimes, des signes. Et elles n'en ont pas tenu compte, elles ne se sont pas repenties. Ninive s'est repentie. Et pourtant Ninive était certainement dans un péché plus grave que Bethsaïda, Capernaum. Mais elle s'est repentie. Eh bien, chers amis, il y aura une plus ou moins grande sévérité selon ce que l'homme dans sa vie aura connu ou reçu. Et il y aura un critère pour les hommes qui n'auront pas connu Jésus. On ne pourra pas leur demander la foi, bien sûr, dans le Seigneur Jésus. Ils le connaîtront quand ils le verront, quand ils comparaîtront devant lui. Lui qui a reçu tout jugement du Père. Il faudra qu'ils comparaissent devant lui. C'est à ce moment-là que Jésus les lavera de son sang pour les faire entrer dans le royaume. Mais cela, n'est-ce pas, selon un critère que seul Dieu peut mettre en exercice, pas à nous qui pouvons, n'est-ce pas, mettre ce critère à l'œuvre, pauvres que nous sommes. Quelle serait notre prétention de vouloir faire des catégories dans l'humanité parmi les hommes, dire « Ah, ben celui-là, il sera sauvé, ah, ben celui-là, il ne sera pas sauvé. Et puis celui-là, ben, il pourra peut-être être sauvé. Celui-là, non, ah non, on ne peut pas, etc. » Comment ? Mais on entend souvent ces jeux-là, mes amis. Mais sommes-nous inconscients ? Nous prenons la place de Dieu, nous voudrions juger. Et souvent, on m'a posé la question, dites-moi, les gens qui sont adventistes, là, est-ce qu'ils sont sauvés, quoi ? Est-ce que je suis Dieu, moi, pour répondre à une telle question ? Enfin, tout de même, voyons, n'est-ce pas ? Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous sondons les cœurs et les reins ? Est-ce que c'est à nous de juger ? Est-ce que le jugement n'est pas une prérogative de Dieu ? Et seulement remise à un seul homme, son fils ? Eh bien, chers amis, faire le bien, faire le mal, c'est un mot très bref et qui s'adapte à toutes les situations. Faire le bien, c'est accomplir la volonté de Dieu. Faire le mal, c'est s'en être écarté dans les conditions où l'on s'est trouvé. Mais Dieu aura placé devant l'homme humble, il aura toujours placé un choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Toujours le Seigneur aura placé un choix. Le psaume 25 le dit, à condition qu'on soit humble. Et l'homme humble, l'homme qui a été avant que cette béatitude ne soit prononcée, qui a été le pauvre en esprit, eh bien cet homme-là, il trouvera le salut. Mais il aura fait le bien. Il aura fait le bien parce qu'il aura été humble, parce qu'il aura, comme Abel, cherché la volonté de Dieu. Il aura fait agir une foi. N'avons-nous pas vu que la foi était déjà à l'œuvre avant que Jésus ne vînt sur cette terre ? Hébreux 11. Est-ce que ces gens-là ne sont pas donnés comme une nuée de témoins et comme des gens qui ont un héritage à recevoir ? Mais Dieu ne veut pas qu'ils parviennent avant nous à cette joie immense, à cette possession, la perfection. Il ne veut pas, n'est-ce pas ? Mais ils sont pour cette joie et cette perfection. Par conséquent, ici, d'un mot, Christ embrasse toute l'humanité, d'un mot, ceux qui auront fait le bien. Alors, appliquons-le à nous, alors au cas de l'Église, au cas plus exactement, si vous voulez, des populations qui ont entendu la prédication de Christ. Alors là, n'est-ce pas, comme le dira dans Jean, le Seigneur Jésus, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà ce qu'il dira, n'est-ce pas ? Et faire le bien, ça aura été donc de recevoir sa parole, mais ça aura été de la recevoir en vue d'accomplir les œuvres préparées d'avance, c'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu et de faire le bien. Ne croyez pas que la foi sera simplement une petite disposition de cœur qui se sera manifestée pendant un petit temps, un petit moment. Ah oui, je crois, ah oui, j'aime ces choses, ah oui, je crois, n'est-ce pas ? Et puis c'est tout. Non, la foi aura produit le bien. Lisez toutes les épîtres, lisez le Nouveau Testament et vous le verrez. Qui sont ceux qui sont mes frères et mes sœurs ? Ceux qui accomplissent la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qui font le bien. Le bien, c'est ça. C'est la définition du bien. Voilà, mes amis, n'est-ce pas, ce qui nous est dit. Et le Seigneur ne fait pas de grandes théories, mais elles sont solides, ces théories. N'est-ce pas ? C'est plus exactement, sa parole est prononcée et elle est placée sur un socle, sur un rocher inébranlable. Et puis enfin, le verset 30, par lequel nous terminerons, « Après avoir ainsi développé l'étendue de son pouvoir dans le ciel et sur la terre, Jésus réaffirme que de lui-même, il ne peut faire le plus petit acte. » Vous savez, après avoir énoncé ces grandes choses qu'il va faire, il a reçu tout jugement, il donne la vie, il appellera l'humanité tout entière à sortir des sépulcres. Après avoir annoncé ces, ces desseins d'une ampleur magnifique, Jésus a besoin encore de dire, mais c'est pas de moi-même tout ça. De moi-même, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne puis rien faire de moi-même. Il faut qu'après avoir dit ces choses sublimes, il réaffirme ça, oh, ce n'est pas de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Il faut qu'il revienne à vraiment la position humble, chers amis. Puissions-nous la garder nous-mêmes, cette position d'humilité. Savoir que nous ne sommes rien, que nous n'avons rien, que ce qu'un homme a reçu, il le tient de Dieu. Sans quoi lui n'a rien. C'est un homme dépossédé, nous l'avons écrit au tableau l'autre jour. Un homme dépossédé. Et il faut que l'homme sache qu'il est dépossédé. Il est dépossédé. Et il n'a que ce qu'il reçoit de Dieu. L'homme est un réceptacle. Un réceptacle vivant. Un réceptacle fait pour être à l'image de Dieu, certes. Mais il est un réceptacle. Il ne peut pas faire le plus petit acte, le plus petit commencement de cette œuvre qui est immense, de lui-même. Et comment un jugement pourra-t-il être juste? Il va juger, mais là, n'est-ce pas, le Seigneur nous montre que c'est grave. Et mon jugement est juste, c'est grave de disposer de cela, du jugement. C'est grave, mes amis, c'est très grave. Parce que ce n'est pas... une âme, ce sera des multitudes qu'il faudra envoyer du côté du jugement et du côté de la condamnation, du côté de la deuxième mort. Ce sera une multitude, et même si c'était une seule âme, même pour une seule âme, c'est une chose infiniment grave que de retirer la vie que Dieu a donnée et de la retirer par la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est ça le commandement de Dieu. Et on pourrait presque dire, n'est-ce pas, le jugement, la condamnation, la deuxième mort, les peines éternelles, tout cela, ça n'est pas la volonté de Dieu. Mais si, c'est la volonté de Dieu tout de même. C'est la volonté de Dieu, mais de par des circonstances que Dieu n'aurait pas voulu, de par des circonstances terribles, atroces, qui ont forcé Dieu à accepter ce secteur. Mais sa volonté, son commandement, c'est la vie éternelle. Alors, mon jugement, il faut qu'il soit juste. Il est juste, mon jugement, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsqu'un jugement est fondé sur Dieu, prononcé par celui qui soumet entièrement sa volonté à celle du Père, alors là, le jugement est juste. Jésus a pourtant une volonté d'homme. Tenez, dans Jean 6, 38, nous pouvons lire, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Non ma volonté. Donc, Jésus a bien une volonté. Il dira au Seigneur, « Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne. » Il en a une volonté. Pourquoi n'en aurait-il... Alors, il ne serait pas un homme libre, il ne serait pas un être libre, il ne serait pas un être qui obéirait dans la liberté s'il n'avait pas de volonté. Il serait, je vous le dis, n'est-ce pas, il serait un être automate rendu solidaire, étroitement solidaire, mécaniquement, on pourrait dire, solidaire du Père. Mais ce n'est pas cela. Jésus a une volonté. Il a une volonté comme nous en avons une, n'est-ce pas? Mais cette volonté, il s'en sert. Il s'en sert d'une façon, on pourrait dire, presque farouche pour accomplir la volonté du Père. C'est comme une passion, n'est-ce pas, dans laquelle il utilise toute sa volonté pour accomplir la volonté du Père. Parfaitement libre est le Seigneur, parfaitement libre et parfaitement obéissant dans la liberté. Telle est la position du Seigneur et telle doit être la nôtre, mes amis. Acte.